est-ce qu'on est prêt pour un message ce matin? Oui. Avant qu'on commence, je propose de montrer quelque chose. Je pense que c'est ça, ok. On est combien de jours dans la semaine? 7. Dimanche, on est dimanche, n'est-ce pas? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Samedi, pardon. Merci. Vous êtes réveillé ce matin. Super. Donc, 7 jours. On est quel jour aujourd'hui? Dimanche. On est dans l'église, n'est-ce pas, pour le culte? Oui? Ok. Là. Ok. Dans nos vies, dans une semaine, je n'ai pas fait le math, mais il y a combien de heures? 24 multiplié par 7. Est-ce que quelqu'un connaît dans son cœur? Multiplie 24 multiplié par 7. C'est combien de heures? Quoi? 168. Merci. 24 multiplié par 7. Combien de heures on dort? 8, 7, certains mois. OK. Combien de heures qu'on mange? À propos, certains mangent beaucoup plus. OK. On peut dire, OK, pendant un jour, peut-être on passe demi-heure pour le petit déjeuner, peut-être demi-heure pour le repas de midi et peut-être un peu plus le soir. 2 heures multipliées par 7, c'est 14, n'est-ce pas? On travaille 7, 8 heures par jour. Ça, c'est 40. C'est 40, oui? 40, 37. OK. On est là. On est 1h30. Le but de ça, ce qu'on fait ici, le but de la louange, le but de la communion ensemble, le but de l'enseignement de la parole, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas moi ici de jouer un spectacle ou le prédicateur qui vient ici. Et le même dans une autre église. C'est afin que vous pouvez vivre ces heures avec Dieu, avec sagesse. Romains chapitre 12, verset 1. C'est nos corps peuvent être amenés comme un sacrifice vivant, afin qu'on peut utiliser nos corps pour honorer le Seigneur. On lève les mains saintes, n'est-ce pas? Ça, c'est Paul, je crois, qui parle de on montre nos mains, c'est des mains saintes. C'est des mains utilisées pour glorifier le Seigneur, parce qu'il a dit, glorifie-moi en toutes choses. Si vous mangez, vous boire, tout ce que vous faisiez. Faites, merci. Faites, vous parlez très bien le français, madame. C'est ma femme, donc. Elle parle beaucoup plus le français que moi. OK. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Transformation et pas conformation dans les pensées. Ça veut dire que tout s'est inclus ici. Mon corps physique, mais aussi mes pensées. La bataille passe dans les pensées. On voit les choses. Il est dit, sollicitation de l'atmosphère, sollicitation de ce monde qui initie des choses démoniques en nous. Et la raison qu'on fait ici, on fait l'église, on fait les groupes, la raison qu'on ouvre la Bible dans toutes les occasions pour enseigner, afin que vous pouvez vivre ces heures avec le Seigneur. Progressive sanctification, sanctification progressive, ça veut dire on est transformé de plus en plus dans l'image de Christ sur la terre. Donc, c'est de communiquer afin que vous pouvez décider les choses qu'il faut faire. Le pasteur n'est pas là pour donner les instructions. Il faut que vous fassiez ça, ça et ça. Non, on est là pour conseiller, communiquer les pensées de Dieu. Et quand on ouvre la Bible et on communique, on peut communiquer les pensées de Dieu. C'est à vous dans le flambeau. Prends le flambeau et courir dans la semaine. Et moi aussi. C'est Dieu qui donne ça. C'est nous de vivre devant lui et glorifier le Seigneur. Manifester le Seigneur. Amener le Seigneur devant les autres. Parce que quand on vit, on n'est pas seul. Nous sommes maintenant les témoins. Chacun de nous. Témoins pour le Seigneur. Ça, c'est la raison. On est là. Afin que pour vivre les vies saintes devant le Seigneur, ça ne veut dire pas parfait, mais de dire avec une attitude d'humilité devant le Seigneur. Michée, chapitre 4, est-ce que c'est verset 6? Il y a trois choses que le Seigneur aime. Et la dernière, c'est de faire avec justice. Le deuxième, j'oublie tout maintenant, mais le troisième, de marcher humble avec humilité devant notre Dieu. Et c'est ça, ça c'est la clé. D'être transformé comme lui. Et maintenant je propose. Mettre ça à côté. Hop. Ça c'est juste une petite pensée pour le message. Prions avec moi, on va prier. Seigneur, merci pour cet avant-goût du ciel et merci pour ta parole. On est là pour, pas pour un spectacle, on est là de vivre devant toi, d'apprendre comment on peut marcher humblement devant toi, Seigneur, et de glorifier et manifester un bon témoignage comme Jésus-Christ a fait devant Pilate, un bon témoignage, afin que les gens puissent être sauvés. Bénis ces paroles maintenant. On n'est pas capable de communiquer tes pensées, donc fortifie-nous de comprendre, de communiquer. Aide-moi de communiquer tes paroles, Seigneur, avec ton amour, avec justice, avec humilité, avec grâce. Merci, Seigneur. Amen. Le sujet ce matin, on va parler de totalité, la totalité de Pâques, la totalité de Pâques. Pâques n'est pas juste, pour certains, juste un temps avec les lapins, chocolat. Ce n'est pas juste de chercher des œufs colorés. On peut acheter dans certains supermarchés. Je n'ai pas fait la publicité pour ça. C'est de comprendre que Pâques était comme un tremblement de terre historique. Que nous sommes là et grâce à ce qui a passé à Pâques. Il y a une totalité et une finalité avec la Pâques. Et on va parler de 5 points ce matin qui parlent de la totalité de Pâques. La totalité de Pâques. Et la première chose on peut voir est le silence de Jésus-Christ. Le silence total de Jésus-Christ. 3 ans et demi. 3 ans et demi après, en train de marcher avec ses disciples, en train de communiquer, en train de prêcher. L'épître de Jean, l'évangile de Jean, pardon, il y a beaucoup de discours de Jésus-Christ. L'évangile de Marc parle de beaucoup plus d'activité, moins de paroles, plus des actions. C'est bien d'avoir une combinaison de tous, mais c'est quelque chose qui m'a frappé. Et le silence de Jésus-Christ, le manque de paroles. Le silence est puissant, n'est-ce pas? Et on mesure, on pèse les paroles parlées par les gens, comme c'est quelque chose d'avantageux, comme c'est quelque chose de positif. Et on pense, quelqu'un qui parle plus, avec une éloquence, et quelqu'un qui on doit écouter. Des fois, ce n'est pas la quantité des paroles c'est les qualités. Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'y a rien en moi. Jean 14, verset 30. Je vais arrêter de parler. Je vais parler plus. Ça veut dire que c'est le moment pour moi de communiquer le silence. C'est maintenant que le diable va parler. C'est maintenant que les autorités romaines vont parler. Dans le tribunal, c'est choquant de voir ça. On parle de justice dans ce monde. Il faut parler de justice. Il y a beaucoup d'injustice. Mais Jésus-Christ, le tribunal de Jésus-Christ, tout ce qui a passé pendant le temps entre jeudi soir, avant Pâques, et vendredi sur le croix, c'était une injustice totale. Et on va expliquer ça prochainement. Mais devant le tribunal, il a arrêté de parler. Et le souverain sacrificateur lui-même a dit, qu'est-ce que vous dire? Qu'est-ce que tu vas dire de ces accusations? Imaginons nous tous dans cette pièce, une salle. Jésus-Christ est là, entouré de lui et probablement Annas, Caïphas, je ne sais pas combien de personnes, mais un bon groupe, probablement une vingtaine de sacrificateurs, scribes, sadducéens, pharisiens, des érudits, des études dans la loi. Ils ont mémorisé le Torah, les psaumes, les prophètes. Ils connaissent la Bible par cœur, mais ils ne connaissent pas le cœur qui est derrière de la Bible. Intimidant, n'est-ce pas, d'être devant tous ces gens qui connaissent beaucoup plus. Mais il n'a rien dit. Silence amène beaucoup plus de puissance que les paroles. Ecclésias chapitre 3 parle de les saisons. Il y a un moment pour silence et il y a un moment pour parler. Il faut savoir quand il faut faire le silence et quand on parle. Des fois, le silence est précieux. L'expression en français, le silence est l'or, n'est-ce pas? Le silence est l'or, c'est le même en anglais. Jésus-Christ, dans le silence, il est totalement en contrôle, pas perturbé, aucun souci. Il était prêt pour ça. Devant Pilate, je note le verset. Matthieu 27, verset 14. Pas des paroles. Pilate dit, mais avec toutes les accusations, Jésus, qu'est-ce que tu vas dire? Silence. Pas nécessaire des fois de défendre contre les accusations. Il n'était pas que Jésus a pris un terrain moral beaucoup plus. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de chercher une place plus. Il est. Donc pour lui, c'est juste d'attendre et pour écouter, peut-être pour prier. Peut-être juste le fait qu'il a aimé les gens en train de persécuter, qui cherchent de tuer Jésus-Christ. C'était une injustice, mais pour lui, dans le silence, il communiquait beaucoup plus. Et Pilate a noté ça. Des fois, on est vite à défendre des choses. Des fois, pas besoin de parler. Application. Il y a un moment pour parler. Sagement, il y a un moment pour arrêter de parler. Il y a un moment pour prier. c'est un silence frappant. Et les gens avouent ça. Ce n'était pas normal pour quelqu'un de fermer la bouche et garder la bouche fermée dans un tribunal. Avec toutes ces accusations, silence. Le silence de Dieu dit beaucoup plus. Ça communique beaucoup plus. Le deuxième, la sécurité de Jésus-Christ. La sécurité totale de Jésus-Christ. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Wow. Dans le bac, calme, en train de dormir. Les disciples en train de crier. Les vagues en train de monter. C'est les mariniers, les gens expérimentés pour pêcher, pour faire la pêche. C'est eux qui sont frappés et en terreur. C'était Jésus-Christ en sécurité totale. C'est ici aussi dans le tribunal, dans la salle, devant le Sanhédrin, devant Pilate, devant Hérode. Toi, tribunal, dans quelques heures. Première, Sanhédrin, c'était chez Annas avec Caïphas. Deuxième, c'était après ça, si je ne trompe pas, avec Pilate. Troisième, Hérode. Après, il a retourné, il était devant la foule. Wow, en sécurité. Aimé totalement. On peut voir ça dans la vie de quelqu'un. Étienne, Actes chapitre 7, devant le Sanhédrin, 73 hommes, scribes, pharisiens, sadducéens. Il a donné un discours qui était un enseignement sur l'histoire d'Israël. Et après ça, tu es lapidé. Sécurité totale. Parce que quand nous sommes aimés par Dieu, apportés par la présence de Dieu, on n'est pas vraiment conscient de nous-mêmes. On est conscient de des choses qui passent, bien sûr. Mais on est plus conscient de la présence de Dieu. On a parlé de ça jeudi soir. On a parlé de ça mercredi soir. La crainte de Dieu ou la peur des hommes. Paralysé par la peur des hommes ou entrer dans la joie de le Seigneur sur la terre, dans sa présence, rempli avec amour, rempli avec esprit. Combien de martyrs, combien de chrétiens martyrisés on a vu Zwingli jeudi soir, jeudi au vendredi. Un film sur Zwingli, le réformateur à Zurich. Et on voit une histoire avec certains qui sont martyrisés. C'est choquant. Mais de savoir que Dieu, il prépare quelque chose pour chacun. La grâce pour mourir aussi. La sécurité pour nous, dans nos vies, devant cet orage sur le monde, cette pandémie, les difficultés. Sachant que notre Dieu est avec nous et on est aimé. Chacun de nous dans cette salle, chacun, pas un, moi aussi inclus. On est totalement aimé par Dieu. Depuis le commencement jusqu'à la fin et pour l'éternité. Il ne va pas nous aimer, moi, juste parce qu'on fait des bêtises. Et donc, si nous pouvons accepter de recevoir l'amour de Dieu, l'amour va être une sécurité pour nous. Troisième, le mal est totalement exposé. La totalité de cette exposition, si on utilise ce mot, exposition, exposé. L'histoire de l'Aï après Jéricho. Premièrement, il y a une défaite militaire pour les peuples d'Israël en Cana à cause d'un homme, Achan. Mais après ça, c'est une grande victoire. parce que Jéricho, après Jéricho, est dans Aï. Ce qui a passé et l'ennemi, ceux qui sont dans la ville de Aï, sont entrapés, piégés, de tirer, de sauter de la ville totalement et après un petit snare, embuscade par certains Israélites cachés qui entrent dans la ville et commencent à brûler la ville. Et les occupants de Haï, les soldats qui ont sorti, tournent, se regardent et voient la ville en train de brûler. La bataille continue. C'est une défaite pour ceux qui sont des occupants d'Haï. Tout ça pour dire que l'ennemi doit être attiré pour sortir et révéler sa position, exposé. Le diable est en train d'être exposé. En Afrique, il est caché. En Afrique, il est beaucoup plus visible. En Europe, en États-Unis, il est caché. Ça veut dire qu'il est invisible, mais il travaille dans notre culture. Il utilise certaines choses, les forteresses, pour influencer le monde. Jésus-Christ est en train de tirer l'ennemi de sortir de son cache invisible, cet endroit invisible. Ça veut dire l'ennemi a exposé sa position. Ça veut dire Judas a fait ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, OK, je suis prêt, Judas. Fais ce que tu vas faire. Et Satan entré dans Judas. Il a demeuré en lui, influencé pour finir l'acte, a préparé le pharisien pour prendre Jésus. Après ça, le tribunal a révélé sa position aussi. Satan influence le tribunal pour prendre Jésus. Et sur le croix, exposition totale par l'ennemi. Maintenant, la force de l'ennemi s'était visible. Et c'est dans ce moment que Jésus-Christ a accompli sa victoire. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire maintenant, ici? La même chose. Il laisse l'ennemi de sortir de ses endroits cachés. C'est pourquoi qu'on peut voir plus de mal dans ce monde. Parce que Jésus-Christ révèle les cœurs, les intentions de cœur. Des fois, il faut que Dieu révèle les cœurs comme il a fait en Luc chapitre 2. Jésus-Christ est là pour révéler les pensées de cœur, exposer l'ennemi. Et la puissance, c'est quand l'ennemi est exposé, Dieu va dire, voilà, millénium, 1000 ans sur la terre, le diable en prison, prie et il commence une rébellion dans un endroit, un monde presque parfait, et certains vont suivre. Révélation des cœurs de ceux qui sont jamais avec Jésus, afin que justice parfaite, exposition, expose de l'ennemi total. C'est pourquoi que ce monde est comme c'est avec tout ce qui passe. Que l'ennemi est visible maintenant, et on peut voir l'ennemi. Et Dieu dit, non, je suis là et je suis en contrôle dans nos vies. Quatrième, vous êtes avec moi, c'est bon? OK, je ne dors pas, non, je rigole, je ne dors pas. Je prends le café ce matin, donc. Quatrième point. L'homme doit arriver jusqu'au bout, totalement. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, dans Jean chapitre 2, a connu le cœur des hommes, les pensées de cœur. Il n'a pas fait confiance sur l'homme. Pierre, il dit, tu vas m'a nié. Tu vas dire, je ne connais pas cet homme, Jésus-Christ. Tu vas faire ça trois fois avant le coq chante pour la deuxième fois. Tu vas dire trois fois. Pierre dit, non, je ne vais pas faire ça. Je suis fort, je suis un homme. Je suis avec toi. Je vais aller jusqu'au bout. Et les autres disciples, ils ont dit la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Trois fois et kikiriki. Kikiriki? Non. Le chant du coq, il a dit trois fois. Oui, OK. Cocodoulou. C'est mieux? OK. Il n'a pas arrivé de jusqu'au bout. On dit que l'expression est un collapse total. Ça veut dire que lui, il a vécu une vie comme ça. Est-ce que je l'ai stylé? Oui, c'est là. Je vais essayer d'expliquer quelque chose ici. Ça, c'est l'homme externe. Ça, c'est Pierre. Ça, c'est l'homme interne. Il y a une différence, il y a un vide entre les deux, n'est-ce pas? Ils ne sont pas les mêmes. Quand Pierre a découvert qu'il était faible et sa bonne volonté n'était pas suffisante pour honorer Dieu, il y a un collapse. Il a découvert qu'il n'est pas si bon qu'il a pensé. Ça veut dire qu'il a fait confiance dans sa propre force et pas dans la confiance de Dieu. Proverbe 3, versets 5 et 6. Fais pas confiance en ton intelligence, mais fais confiance avec tous en Dieu, en bref. David, par contre, était un homme totalement intègre. Ce que tu vois externe est la chose interne. Aucune hypocrisie, aucune différence. On est appelé d'être le même. Mais au même temps, on veut savoir que nous sommes pécheurs, chacun de nous. Romains chapitre 7, est-ce que c'est verset 14? En moi, il n'y a rien qui est bon. Je suis pourri jusqu'au bout de mes ongles. C'est l'expression, bref. Une traduction littérale de Cooper, pas la Bible. Totalement, on doit avoir une intégrité qui est la même. Ça veut dire que nous sommes le même quand on est en privé, en prière, le même quand nous sommes publiquement devant tout le monde. Ça, c'est la clé. Pierre découvert à sa prix que sa bonne volonté, sa force ne suffit pas. On est comme ça. On pense qu'on est capable. Dieu dit non. Accroche-moi. Fais pas les promesses en vain. Acceptons que tu vas tomber, mais rebondir. Ça veut dire je vais pécher. Je ne suis pas orgueilleux de dire ça. Je ne vais pas réussir. Je vais avoir des échecs. Et vous êtes peut-être dans le futur, vous vous dites, waouh, il a fait ça. Oh. Il est chrétien. Oui, c'est en nous, c'est l'ancien cœur. On va avoir des échecs. Acceptons le pardon de Dieu et la restauration. Tomber dans le péché, rebondir, il est une provision. Pierre, retourne vers moi. Accepte le pardon. Restauration, Jean chapitre 21. Jésus a dit trois fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Restauration. Il n'a pas parlé de tout de ce sujet d'échec dans le passé. C'est fini. Nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Acceptons la provision de repentance que Dieu donne. C'est un don. Rebondir. Le juste tombe sept fois, mais il se lève chaque fois. Ça, c'est notre victoire. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Chacun de nous, acceptons, on n'est pas puissant. On ne peut pas faire ce qu'on pense, sauf par la puissance de Dieu. Si on essaie de faire par notre propre force, on va être très déçu de nous-mêmes. Wow. Le cinquième. Est-ce qu'il y a un cinquième point? Le mort est la finality or totality, c'est la solution. La mort. Crucifié sur une croix, cloué, gardé par l'amour, oui, il accepte de mourir. Philippiens chapitre 2, le mot en grec kenosis, ça veut dire un vidé de soi-même, depuis de soi-même. Je le mets à côté toute ma puissance pour honorer le Père et être soumis. Ça veut dire Jésus-Christ a accepté de partir, d'être un homme et de marcher sur la terre et être soumis à les autorités, soumis à l'injustice pour nous. La solution pour l'homme n'est pas un petit scotch pour une blessure. On est, comme on a dit, Ésaïe chapitre 1, versets 5 et 6, la tête jusqu'aux pieds, c'est la putrification. Rien qui est intègre en nous. On a des blessures, on ne peut pas guérir. Ça, c'est la sentence finale de Dieu. Pas de guérison pour l'ancien homme. Nouvel homme, nouvelle création en Christ. Ça, c'est la solution. Nouveau cœur. Esprit. Ce n'est pas une religion que nous avons ici. C'est une vie totalement différente. Et la naissance a commencé en nous, et maintenant on voit de plus en plus cette semence. Mais il faut que quelque chose mourir, et c'était notre Dieu qui est mort pour nous. Quelles sont les implications si on comprend ça? Retournons pas dans les péchés, acceptons la miséricorde de Dieu. Marchez avec lui avec intégrité. Donne toi-même la grâce pour la vie aujourd'hui. Ça veut dire, quand tu sors après cette culte et quelqu'un avec une voiture fait comme ça devant toi et dit « Ah, you !» Non, acceptons, il y a une grâce pour nous-mêmes. Mais j'étais comme ça dans l'église et après je fais comme ça, je frapper le chat, j'ai insulté, engueulé. Non, pardon, ça, ce n'est pas une bonne expression. J'ai offensé le voisin. Je n'étais pas respectueux. Je n'ai pas fait mes délais pour les impôts. J'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de voter aussi. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas un bon citoyen. La grâce est là pour accepter. OK, Seigneur, je n'ai pas réussi. Mais comme tu as dit, il est une repentance, il est une restauration. Parce qu'il est mort pour moi. Et s'il est mort pour moi et vivant pour moi, je peux marcher avec une tête comme ça devant et pas avec la honte. Je ne veux pas accepter les accusations du diable parce que je suis mort avec lui aussi. Ma passé est fini. C'est fini. Je suis maintenant dans une nouvelle vie. Vivons cette nouvelle vie. Il faut que quelque chose meure, après on peut vivre. Il faut être un mort dans notre vie. Une séparation de notre passé. Une séparation d'une mauvaise habitude peut-être. Une séparation de notre attitude au orgueil peut-être. Mais les Britanniques, ils sont les meilleurs du monde. On parle anglais et tout le monde doit parler anglais. Une fierté de mettre ça à côté. Nous avons une nouvelle culture. Pas brésilien, pas espagnol, pas français, ni toutes les autres nationalités. Ils restent dans cette salle et aussi connectés par Zoom. Nous avons la culture de Christ qui nous transforme. Et c'est là. Il est mort pour ça. Il est mort pour ma vie, il est mort pour le fait que je sors de ma péché, que je vive une vie, que je peux grandir avec lui, je peux avoir le regard devant les autres. Pierre, le plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nié Dieu. Il a dit, non, je ne connais pas cet homme. Non, je ne connais pas cet homme. Juste dit, je ne connais pas cet homme. Combien de temps l'accusation tourne dans sa tête? Qu'est-ce que j'ai fait pour Jésus? Je nie Jésus-Christ, Dieu lui-même. Je tourne le dos à lui. C'est un échec trop horrible. Et dans la tête, le diable est en train de dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis que tu es un chrétien et tu as fait ça. Accusation, 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 pensée, jour et nuit. Qu'est-ce que se passe en Actes chapitre 3? Pentecôte, Actes chapitre 2. Actes chapitre 3, c'est vous, il parle, c'est lui-même en train de prêcher, il dit, c'est vous qui êtes nié le prince de la vie, Jésus-Christ, le Messie. C'est vous. C'est lui qui a fait, mais ce n'était pas du tout dans ses pensées maintenant, c'est fini. Repentance, les péchés effacés, la vie, il est mort, il est une séparation. On a parlé de cette différence entre enfer et ciel, cet abîme qui séparait le mort spirituellement de la vivant avec Dieu. Il y a une séparation maintenant dans ma vie entre ce qui a passé et je suis maintenant. C'est un abîme. Il n'y a aucune connexion. Je suis maintenant une nouvelle créature et je vis dans cette vie parce qu'il est mort pour moi. Et j'ai passé par la mort et maintenant je vis avec lui. Totalité de mourir et finir. Et on sortait des voilà, c'est fini maintenant. Je ne parle plus de ça, c'est fini dans mes pensées. Ma vie, ce que je vis maintenant, c'est la fraîcheur avec Dieu. C'est fini. Aucune condamnation pour le croyant. Aucune condamnation pour le croyant. Aucune condamnation pour le croyant. Parce qu'on est maintenant vivant devant Dieu. Comment je peux dire ça? Parce que c'est vrai. La totalité de la mort et la totalité d'une vie de résurrection. On va parler de ça dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Prions avec moi. Seigneur, merci. Ce matin devant toi, merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, pour la puissance de vivre une vie avec autorité, avec grâce, avec joie devant toi, Seigneur, de témoigner de toi, de parler de toi, de communiquer la vie. Merci, Seigneur, pour ça. Bénis cette fin maintenant. Bénis chacun de nous pour nos dimanches dans nos propres foyers. Aide-nous de vivre cette semaine devant toi, Seigneur. Aide-nous, protège-nous et donne les occasions de parler de toi aux autres. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Amen.